RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis, vous l'entendez ce matin. On parle du vélo et c'est vrai que si vous habitez en zone rurale ou à la campagne, hein, vous vous dites mais ils sont bien gentils les petits citadins à nous donner des conseils, mais adopter le vélo comme mode de transport au quotidien par chez nous, c'est impossible. Justement, on va voir que quand même c'est possible. On va se demander comment faire pour vraiment développer le vélo dans les territoires avec nos invités. On va vous donner des conseils et bien sûr, vous êtes les bienvenus en direct avec vos témoignages. Si vous habitez à la campagne, est-ce que vous arrivez à faire du vélo quotidiennement pour aller travailler par exemple? Est-ce que c'est simple? Quelles difficultés vous rencontrez? Est-ce que les territoires, vos territoires mettent en place des dispositifs pour faciliter cette utilisation? Venez témoigner au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et alors que se déroule à Marseille les 18 et 19 juin prochains, le campus des territoires zéro exclusion énergétique. On reviendra sur cette initiative remarquable avec Julien Deséco, le directeur du Média Sans Transition. Ce sera en fin d'émission à 10h50. Pour nous accompagner jusqu'à 11h, on a le plaisir d'accueillir deux invités. Je commence avec vous, Nicolas Denose. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous sur RCF. Vous êtes membre du collectif Bicyclette Bretagne. Vous êtes donc breton, vous êtes actuellement en Bretagne. Merci beaucoup de prendre le temps de participer à cette émission. Question très simple, que représente le vélo dans votre vie, Nicolas Denose?
Le vélo dans ma vie, c'est mon moyen de déplacement principal et c'est aussi une source de plaisir et de bien-être, tout simplement.
Ouais. Et est-ce que vous êtes tombé dans la marmite du vélo quand vous étiez petit, quand vous aviez appris le vélo? À quel moment vous avez eu peut-être un déclic pour vraiment en faire votre cheval de bataille, vraiment pour même faire partie du collectif?
Alors ça a commencé assez tôt. Au collège, il s'est trouvé que mes meilleurs amis habitaient dans un hameau qui était à 5 km et... mon père ne souhaitait pas forcément tous les samedis m'amener là-bas, donc il m'a proposé d'acheter un vélo d'occasion et puis tous les week-ends j'allais les voir, je faisais mes 5 km aller, 5 km retour. Voilà. Ça a commencé comme ça.
Ouais. Et c'est devenu, est-ce qu'on peut dire que c'est devenu une passion dans votre vie ou c'est peut-être un peu fort comme expression?
Oui, c'est devenu quelque chose de très important puisque je milite aussi maintenant dans les associations qui font la promotion du vélo parce que je trouve que c'est un moyen de transport qui a été souvent sous-estimé et qui est extrêmement extrêmement pratique et extrêmement plaisant. Mmh.
C'est quoi l'objectif du collectif Bicyclette Bretagne? C'est vraiment de faire en sorte que le vélo devienne quotidien dans votre territoire?
Oui, c'est de faire que ça puisse vraiment être une solution de transport accessible au plus grand nombre, de créer une alternative à la voiture et à l'autosolisme. C'est pour ça que le collectif a été créé. En fait, il a été créé en 2020 autour d'une vingtaine d'associations locales. À l'approche des élections régionales et départementales, on souhaitait tout simplement faire figurer le vélo dans les programmes des candidats au régional et au départemental pour faire que tout un chacun puisse choisir cette solution parce qu'aujourd'hui, le problème pour le vélo, pour ceux qui souhaitent se mettre au vélo, c'est que ils ont rien pour le faire, ils ont peur d'y aller, les routes sont dangereuses, pas aménagées. Et donc c'est le principal frein.
Ça, c'est ce qu'on vous dit, ce sont les remontées que vous avez?
Oui. C'est toujours ce qu'on entend en premier, c'est le vélo, c'est dangereux. Donc moi, je voudrais bien, mais comment je fais pour franchir tel giratoire? Comment je fais pour rouler sur tel départemental où il y a tellement de voitures qui vont à 80 km/h?
Est-ce que c'est vrai, d'après vous, que le vélo est dangereux?
Le vélo est dangereux, c'est tout dépend de où est-ce qu'on le fait et comment on le fait et est-ce qu'il y a des aménagements ou pas. C'est certain que quand il y a des bons aménagements, c'est plus du tout dangereux. Si vous regardez aux Pays-Bas, vous avez très peu d'accidents en proportion du nombre de personnes qui se déplacent parce qu'ils ont aménagé tout un tout un ensemble de réseaux bien pensés et bien sécurisés qui fait que vous n'allez pas côtoyer des voitures à grande vitesse.
Merci Nicolas Denos de nous accompagner jusqu'à 11h. C'est une belle entrée en matière. Je vous présente notre deuxième invité, Martine Cano. Bonjour.
Bonjour à vous.
Bienvenue dans Je pense donc j'agis. Vous êtes la présidente de la Fédération française de cyclotourisme. Alors c'est le fruit du hasard, mais vous êtes également située en Bretagne. Quel est votre rapport au vélo, Martine Cano?
Le vélo, c'est d'abord des souvenirs d'enfance, puisque ben, comme beaucoup d'enfants, j'ai appris à faire du vélo quand j'avais 4-5 ans. Et puis ce sont des récits de mes parents qui n'avaient pas de voiture et se déplaçaient à vélo, y compris pour aller voir la famille entre le Nord et la Bretagne, et qui nous faisaient envie, à nous les enfants, quand est-ce que nous aussi on pourra partir un peu plus loin que le bout de la rue, quoi. Mmh. Donc ça a toujours été un désir d'évasion. On va dire.
Un désir d'évasion jusqu'à donc rejoindre cette Fédération française de cyclotourisme. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour vous ?
Eh bien, quand j'avais 15-16 ans, mon père a vu une annonce dans le journal et il a dit, tiens, si vous voulez, les enfants, on va aller voir. Et c'était la solution pour pouvoir sortir en dehors du cadre strictement de la maison, du bout de la rue, et sortir sur la route en étant conseillé, encadré, et cela permettait après de gagner en autonomie et puis de voler de ses propres ailes.
Quel est l'objet de la Fédération française de cyclotourisme ? C'est vraiment, on va dire, de promouvoir le tourisme à vélo, mais aussi de développer la randonnée à vélo dans les territoires.
Bien sûr. Alors promouvoir le tourisme à vélo, c'est on va dire notre ADN. Ouais. Mais on va au-delà, parce que développer le tourisme à vélo, ça veut dire acquérir de l'autonomie pour se déplacer un petit peu partout, que ce soit à la campagne ou aussi dans des agglomérations, parce que quand on voyage, on est amené à traverser des agglomérations, on reste pas dans une bulle qui serait complètement en dehors de tout. Et puis donc c'est aussi de l'éducation à la sécurité, quels sont les bons comportements à adopter, quels sont les moyens de se rendre autonome, c'est-à-dire savoir lire une carte, savoir réparer les petites pannes qu'on peut rencontrer, c'est savoir rouler à plusieurs et pas seulement tout seul. C'est aussi entretenir sa santé, parce que on sait que toute activité physique, le vélo en fait partie, est forcément un atout pour la santé aujourd'hui.
Ce matin, vous l'entendez dans Je pense donc j'agis, on parle du vélo et notamment jusqu'à 11h, on essaie de s'intéresser au vélo en zone rurale avec vos témoignages au 04 72 38 20 23. On a Christiane qui nous a rejoint. Christiane, bonjour. Est-ce que vous êtes là, Christiane?
Oui, bonjour Mathieu.
Bonjour à vous, on vous écoute.
Merci pour cette belle émission. Alors, j'aime beaucoup le vélo et juste mon gros souci, j'en fais depuis très longtemps, je suis retraitée, j'ai 74 ans, donc voilà. Et j'habite dans un village à 3 km de la ville, enfin, voilà. Et j'aimerais beaucoup pouvoir faire mes courses quotidiennement à vélo. Mais la départementale qui me conduit jusqu'à la ville est beaucoup trop dangereuse. Il n'y a pas de piste cyclable. Et comment faire pour essayer de... Voilà, qu'une piste cyclable soit créée.
Eh ben, c'est une bonne question, Christiane, et merci beaucoup de l'avoir posée. Je précise que vous êtes en Haute-Loire. Nicolas Denos, des Christianes, il y en a beaucoup en France, peut-être, qui rencontrent la même difficulté, qui veulent vraiment utiliser le vélo quotidiennement pour aller faire des courses, voir des proches, etc., mais qui sont confrontés à une réalité, c'est celle des dispositifs qui sont mis en place, ou non, d'ailleurs, dans les collectivités, dans les territoires. Que peut-on répondre à Christiane, Nicolas?
Alors, Pour essayer de faire des réponses concrètes, moi, effectivement, je crois que l'envie de vélo des Français elle est à peu près la même partout où qu'on habite. Après, si on regarde les chiffres de progression, c'est que ces dernières années, il y a une grosse progression du vélo. Elle se fait principalement dans les grandes agglomérations et sur le rural, c'est effectivement encore assez difficile parce qu'il y a ce manque d'infrastructures sécurisées qui fait qu'on n'y va pas, même pour 3 km. Effectivement, on peut, et c'est une bonne chose, d'aller communiquer avec ces élus et leur demander de créer des aménagements, de créer des solutions. Et ces solutions peuvent être soit des aménagements qui sont le long de la route, ou peut-être en réduisant un petit peu la largeur de la route s'il y a de la place. Mais ça peut aussi être, s'il existe des petites routes secondaires en parallèle de la route principale, qui parfois peuvent rajouter un petit peu de distance supplémentaire, mais ces petites routes aussi parallèles, surtout si elles sont, si on réduit la vitesse des véhicules et le volume de véhicules qui utilisent ces axes, peuvent être des très bons axes cyclables le long des départementales, parce qu'on sait bien que les collectivités ont quand même des difficultés financières en moyens humains. Elles vont pas équiper toutes les départementales comme ça en quelques mois ou même en quelques années. Donc essayer d'utiliser le réseau secondaire, les petites voies de desserte, voire les chemins. Ça peut être peut-être pour Christiane une solution de regarder s'il n'y a pas des chemins ou des petites voies moins circulantes qu'elle peut emprunter.
Ça veut dire quand même, Nicolas Denos, que les territoires essayent de changer les aménagements. Par contre, ça nécessite énormément de moyens. C'est pas aussi simple que ça en a l'air.
C'est pas aussi simple que ça en a l'air. J'étais la semaine dernière à la conférence Vélo Bretonne, donc où il y avait de nombreuses intercommunalités chargées de mission et techniciens représentés. Effectivement, leurs difficultés, c'est les budgets, c'est les moyens humains pour réaliser un aménagement cyclable le long d'une départementale. Parfois, il faut faire des acquisitions foncières ou des expropriations, ce qui prend énormément de temps. Donc il y a effectivement un certain nombre de difficultés qui freinent les collectivités, même si aujourd'hui il y a de plus en plus de collectivités qui veulent faire des aménagements cyclables.
Donc ça c'est aussi une réalité. Quel est votre regard, vous, Martine Cano, par rapport à cette remarque de Christine?
Oui, effectivement, je partage sa préoccupation. Les gens ont quelquefois peur de s'engager sur une route, sur un chemin. En même temps, je dirais que ce n'est pas le vélo en lui-même qui est dangereux. C'est la façon dont les gens se conduisent quand ils sont au volant. Le vélo tout seul n'apporte pas plus de danger. Simplement, beaucoup d'usagers d'engins motorisés, vélo, mais pas que vélo, et éventuellement moto également, ne respectent pas les règles qui existent déjà dans le code de la route. Tout simple, par exemple, laisser un espace suffisant quand on double un véhicule et quand on double un vélo. Ça semble tout bête, c'est dans le code de la route, c'est 1 mètre en agglomération, 1 mètre 50 hors agglomération, mais on se fait très souvent frôler par des conducteurs qui ne respectent pas ces distances, qui donc mettent en danger le cycliste qu'il double parce que il y a un déplacement d'air qui fait qu'on peut être un petit peu, je dirais, bousculé, et ou simplement créer un sentiment de peur. Et ça, c'est extrêmement préjudiciable. Alors, nous, on préconise, bien sûr, comme vous l'avez dit, d'essayer de chercher des petites routes, des routes de traverse. On dit quelquefois en riant des chemins de contrebandiers, bon, c'est pas ça, mais d'essayer d'éviter les plus grands axes. Ce n'est pas possible partout. Et vous l'avez dit aussi, on ne peut pas créer partout des voies qui soient complètement indépendantes de la route. Il y a l'aspect financier, il y a l'empreinte foncière, et puis il faut apprendre à partager aussi l'espace. Ce que nous demandons depuis des années, alors ça pose aussi des problèmes humains et financiers, mais c'est que dans l'apprentissage de la conduite, les jeunes conducteurs, quel que soit l'âge, disons les nouveaux conducteurs, soient confrontés à la situation d'un cycliste. C'est-à-dire qu'on introduise dans le code de la route, enfin l'apprentissage de la conduite, un module où on mettrait les gens non plus au volant, mais on mettrait les gens sur le vélo, en pleine circulation, pour qu'ils prennent conscience de ce que ça représente et de ce qu'ils génèrent quand eux conduisent.
Ce que ça représente en termes de quoi, de danger, de peur, de vitesse.
Oui, Oui, qu'ils se rendent compte que quand ils frôlent un cycliste à 30 ou 40 centimètres, c'est extrêmement dangereux. C'est pas comme si on était à 1 mètre. Déjà, 1 mètre, quelquefois, c'est un petit peu juste, mais enfin, on peut circuler. Et après, souvent, les automobilistes ne se rendent pas compte. Le fait d'ouvrir une portière sans regarder si un véhicule arrive, il y a énormément de fractures de clavicules, etc., qui sont dues aux automobilistes qui ouvrent leur portière sans regarder. Et si quelqu'un arrive, il se fait bousculer. Et ça peut avoir quelquefois des conséquences bénignes, mais quelquefois des conséquences nettement plus graves.
Nicolas Deux. Pardon, je vous ai coupé la parole, Martine Cano.
Allez-y.
Alors, je me tourne vers Nicolas Denos. Hein. Je rappelle que vous êtes membre du collectif Bicyclette Bretagne. Et vous l'avez dit tout à l'heure, vous essayez d'interpeller peut-être les collectivités territoriales sur cette nécessité de développer le vélo dans les territoires. Est-ce qu'il y a du répondant ? Est-ce que vous êtes écouté au sein du collectif, Nicolas ?
Alors... Concernant la région, on a été écouté assez tôt. Alors, il faut savoir que, pour bien expliquer, il n'y a pas une seule type de collectivité qui a la compétence totale sur tout ce qui est vélo. C'est très éclaté. On est obligé de parler à toutes les collectivités. Donc, la région, par exemple, s'occupe des TER et donc de tout ce qui est intermodalité avec le vélo. Les départements ont en charge toutes les départementales. Puis après, chaque intercommunalité et communauté a sa propre voirie. Donc, on est obligé quelque part de parler à tout ce monde-là pour arriver à faire un réseau qui soit continu et ne s'arrête pas à la frontière d'une départementale ou d'une communale. Donc concernant la région, ils ont été assez vite intéressés et séduits par le vélo en tant que pendant et en complément avec les transports en commun, puisqu'ils sont en charge de tout le réseau TER et des réseaux de bus régionaux. Avec les départements, c'est quelque chose de beaucoup plus récent, et c'est vrai que pour ce dont on parle, le rural, c'est les départements qui sont particulièrement importants en premier chef, puisque c'est eux qui gèrent un immense réseau des départementales qui aujourd'hui sont effectivement en moyenne assez dangereuses à faire à vélo, du moins les principales structures. Donc eux ils commencent aussi à s'y mettre. Il y a les départements bretons, peu à peu, ont sorti chacun leur plan vélo. Donc je crois que maintenant, presque tous les deux, il y a peut-être encore un département breton qui ne l'a pas annoncé, mais ils commencent à sortir aussi leur plan vélo. Et dans les communes, là, c'est plus variable. C'est selon les sensibilités des élus, mais je dirais que de manière générale, il y a de plus en plus une prise en compte du vélo et l'envie de permettre à nos concitoyens de faire du vélo. Donc ça progresse.
On a un message d'Alain très intéressant par mail à l'adresse direct@rcf.fr qui nous dit « Lorsqu'il y a des pistes aménagées, elles sont très souvent très mal signalées, voire pas signalées du tout. Souvent, je vois des cyclistes prendre la départementale de 5 km alors qu'en parallèle, il y a une piste. » Ça, Nicolas Denos, je trouve ça pertinent. Ça veut dire aussi, dans certains cas, que les usagers... les cyclistes ne sont pas assez informés ou ne vont pas assez se renseigner aussi sur les dispositifs.
Oui, la signalétique est souvent rarement au rendez-vous. Ça existe sur les itinéraires touristiques, sur les voies vertes. On connaît entendu parler de la Loire à vélo, donc ça, ces itinéraires en général sont bien signalés. Par contre, les itinéraires du quotidien sont pas forcément bien signalés, c'est pas toujours cohérent, c'est pas toujours aussi continu, ce qui fait que parfois, effectivement, on rate une entrée de piste cyclable, ou parfois on a une piste cyclable à droite de la route et puis qui d'un coup bascule à gauche. Donc il y a des problèmes aussi de conception et de cohérence qui font que parfois, on peut se retrouver à rouler à côté.
Oui, c'est pareil en ville. Pour habiter en ville, je peux vous confirmer que parfois on se demande vraiment qui a dessiné les aménagements, parce que c'est quand même parfois hallucinant. Thérèse nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Thérèse.
Bonjour et bonjour à tous.
C'est votre première fois à la radio.
Il m'a été conseillé au téléphone de vous donner un des témoignages de mes témoignages sur les vélos.
Oui.
C'était quand j'avais 32 ans. Je suivais des cours pour pouvoir faire mon travail professionnel. Et j'avais à soit à prendre le bus et le train pour arriver au cours de pour préparatif au DEUG, et ensuite donc ou prendre le vélo qui portait sur mon porte-bagages les livres qui étaient quand même assez lourds à porter. Donc j'ai décidé une année, dans les années 1971-72, d'aller en vélo, les 32 kilomètres. Vous ne pouvez pas imaginer le bienfait que c'est de faire cet exercice physique du lieu d'habitation jusqu'à la fac. Et on arrive rouge, essoufflé, ayant quand même subi aux arrêts la pollution des voitures. Ça, c'est un petit un inconvénient. Mais si on a 10 minutes pour se changer et être présentable pour les cours qui avaient lieu toute la journée...
Oui.
Je vous assure, cette aération est vraiment très bénéfique pour suivre les cours.
Eh ben, écoutez, merci beaucoup Thérèse pour votre témoignage. Beaucoup de joie hein, dans ce que vous dites en vous rappelant vos bons souvenirs de fac. Martine Cano, cette joie, est-ce que vous essayez, vous, de la transmettre au sein de la Fédération française de cyclotourisme ?
Parce qu'on sait que le vélo est bénéfique pour la santé en général, et faire un petit peu d'exercice quotidien ne peut apporter qu'un bon supplément d'âme et supplément de forme. Après, tout à l'heure, j'ai entendu parler des aménagements en ville et de leur continuité. Effectivement, c'est un des gros soucis auxquels les cyclistes sont confrontés avec la signalétique. La signalétique fait partie de la sécurité. Si vous avez un problème, on vous demande où vous êtes et que vous n'avez même pas un panneau indiquant la voie sur laquelle vous vous trouvez, cela est problématique. Donc, il faut une très bonne signalétique, même sur les grands itinéraires touristiques dont vous avez parlé tout à l'heure.
Ouais.
C'est très bien une fois qu'on est dessus. Le problème est d'en trouver l'entrée. Et quand on est, je dirais, un résident local, on sait où ça se trouve. Quand on débarque dans une ville que l'on ne connaît pas, on arrive à la gare, on cherche où se trouvent les aménagements, ça devient beaucoup plus compliqué en général. Alors, ce qu'on fait, nous aussi, c'est que, nous, au sein de la Fédération, nous avons édité une charte cyclable avec des exemples de bons aménagements, de moins bons aménagements, et nous avons un service de conseil auprès des collectivités qui le souhaitent. Alors, ce sont des conseils, bien entendu, on ne peut pas imposer, il n'en est pas question, mais on peut se rendre sur place, les conseiller, discuter avec eux pour leur montrer... ce qui serait intéressant de réaliser, ce qui serait moins pertinent. Et d'année en année, on voit que ce service de conseil progresse. On a de plus en plus de demandes, ce qui prouve que les collectivités sont plus attentives. Alors évidemment, il reste encore beaucoup à faire. Ça ne se fait pas en un jour, ni même en un an. La prise de conscience est là aujourd'hui.
Oui.
Ça, c'est assez manifeste. La prise de conscience est là. Maintenant, il faut trouver aussi les moyens, et on en revient un petit peu toujours à la même question.
Bah oui.
C'est le nerf de la guerre. Hein. Il faut des moyens,
paye, hein.
Y compris financiers.
Oui, et ça rejoint totalement ce que vous disiez, Nicolas. Il y a une prise de conscience, il y a un réveil, il y a quelque chose. Par contre, il faut aller beaucoup plus loin.
Oui, bah, tout à fait, notamment pour toutes les petites communes, les petites intercommunalités ont souvent des problèmes, tout simplement, de ne pas avoir le personnel ou l'ingénierie nécessaire pour cela. Effectivement, des départements ou des grandes métropoles et grandes villes peuvent avoir ce personnel, mais au-delà des moyens financiers, c'est aussi d'avoir les moyens humains, d'être capable de mener ces projets. Ça suppose aussi de faire des demandes de subventions qui sont complexe, parce que souvent on a besoin de solliciter plusieurs subventions pour avoir le reste à charge le plus petit possible. Donc ça, c'est pas simple à mettre en œuvre, surtout en, en zone rurale.
Ouais. Je vous lirai un message dans un instant de Carole qu'elle nous a laissé, qui justement voulait témoigner de cette difficulté parfois en habitant à la campagne de faire du vélo quotidiennement. Mais j'aimerais qu'on écoute Jean-Louis au 04 72 38 20 23. Jean-Louis, bonjour.
Oui, bonjour.
Montpellier.
Cette émission me donne du bon au cœur. J'ai 76 ans et je suis à mon 5e tour de la Terre. Dans mes déplacements urbains, si je les ajoute les uns aux autres, j'en suis à mon 5e tour de la Terre à raison de 20 km par jour. Je ne trouve que du bien pour le vélo. Il améliore la qualité de l'air. Il lutte contre la sédentarité et prévient les maladies cardiovasculaires et bien d'autres. Je pense qu'également, je suis en pleine forme. Et si je suis en pleine forme, c'est grâce au vélo. Il ralentit le vieillissement. Il baisse les dépenses de santé parce qu'on est moins malade, on est plus productif. J'éprouve le désir de liberté quand je suis en vélo. Je n'accepte pas les bouchons. Je n'accepte pas de planter devant les feux rouges, même si je respecte le code de la route. Pour moi, je me déplace et en même temps, j'ai une activité physique dont je suis là aussi productif, parce que certains automobilistes, enfin, je veux pas les critiquer parce que bon, chacun essaie.
Et c'est pas l'objectif non plus de cette émission.
Ouais. Mais si vous voulez, c'est assez illogique, si vous voulez, d'être sédentaire dans sa voiture et puis après dans les salles de sport, alors qu'on a la possibilité de se déplacer en faisant du vélo et en faisant du sport.
C'est tout le paradoxe.
Voilà. Et ensuite, on amortit en quelques mois son vélo parce que on dépense moins en énergie, en des tas de choses.
Mais
on désencombre les villes.
Oui.
Et on équilibre la balance commerciale.
Merci Jean-Louis, merci beaucoup pour votre témoignage. C'est une vraie déclaration d'amour hein, que vous venez de nous raconter ce matin. Mais je trouve ça intéressant, Martine Cano, plus sérieusement, sur le lien cycliste-automobiliste. C'est un lien parfois qui peut être compliqué, notamment en ville. Comment on travaille à deux? Comment on travaille également en ayant conscience que l'un et l'autre ont des besoins différents?
Alors, ça passe bien sûr par du dialogue et notamment du dialogue avec les auto-écoles, les moniteurs d'auto-écoles. C'est difficile parce que certains sont plus réactifs et plus sensibilisés que d'autres, mais c'est une des voies sur laquelle nous nous engageons. Et puis après, c'est apprendre à vivre ensemble, parce que souvent un cycliste est aussi automobiliste. Pas toujours, mais souvent. Et donc, il est, lui, plus sensibilisé. Et puis, apprendre aussi aux enfants à mieux connaître le code de la route, c'est indispensable. Ce sont les usagers de demain, qu'ils soient motorisés ou non motorisés. Si les enfants sont bien formés, si les enfants sont sensibilisés, on peut espérer qu'ils deviendront de meilleurs conducteurs une fois adulte, conducteur, de tout engin motorisé ou non, je l'entends. Et souvent, on a constaté que les enfants qui sont sensibilisés au code de la route, eh bien, ils font des remarques à leurs parents. Et c'est eux qui vont dire aux parents, mais attention, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as pas mis ton clignotant. Et les enfants sont beaucoup plus sensibilisés que les adultes. Ouais. C'est un des moyens d'avancer. Ça suffit pas, bien entendu.
Et
Faut aussi, oui, j'entends de la musique. Là.
Oui, mais c'est parce qu'il faut qu'on marque une petite pause, Martine Cano. C'est parce qu'il y a, voilà, on marque une petite pause et on a encore plein de choses à dire jusqu'à 11h, toujours avec vous et Nicolas Denos du collectif en Bretagne, collectif Bicyclette Bretagne. On accueillera Bernard dans un instant au 04 72 38 20 23. Venez nous parler du vélo à la campagne. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand. Une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
10h30 dans Je pense donc j'agis. Vous habitez à la campagne, est-ce que vous faites du vélo quotidiennement? Est-ce que c'est simple pour vous? Alors c'est vraiment une galère. Dites-nous si vos territoires mettent en place des dispositifs, des aménagements pour faciliter cette utilisation proche de chez vous. 04 72 38 20 23 ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Il y a des jours où je suis un mec cool, des jours où j'ai la flemme, des jours où j'ai encore de l'amour, des jours où j'ai la haine. Il y a des jours où j'ai pas envie, je me recouche en pleine après-midi. Même quand il y a rien à fêter, c'est pas grave, on fait la fête, on a le moral dans les baskets, on a trop marché sur la tête. Un jour j'irai sur la lune, un jour je croirai en mes rêves, on n'a jamais eu trop les thunes, mais c'est pas grave, on fait avec. Les lampadaires éclairent le bitume quand je regarde par la fenêtre. Et si demain un autre jour se lève, on recommencera encore une fois comme ça sans raison. Et on les oubliera, nos amours, nos galères. Et on les oubliera, nos bonheurs, nos malheurs. Si demain notre jour se lève, on recommencera encore une fois comme ça sans raison. Y'a des jours où j'aime les gens, des jours où je les déteste. Y'a des jours où j'ai des meufs, des jours où j'ai des ex. Y'a des jours où j'ai de l'argent, y'a des jours où j'ai des dettes. Même si on a tout dépensé, c'est pas grave, on fait la fête. Je connais des gens intelligents qui font juste semblant d'être bêtes. Aujourd'hui posé sur un banc, demain j'irai sur Namex. C'est une question d'acharnement, savoir enflammer l'étincelle, voir les yeux des parents briller comme cette putain de tour Eiffel. Et si demain un autre jour se lève, on recommencera encore une fois comme ça sans raison. Et on les oubliera, nos amours, nos galères. Et on les oubliera, nos bonheurs, nos malheurs. Si demain notre jour se lève, on recommencera encore une fois comme ça sans raison. Si demain notre jour se lève, on recommencera encore une fois comme ça sans raison. Et on les oubliera, nos amours, nos galères. Et on les oubliera, nos bonheurs, nos malheurs. Si demain notre jour se lève, on recommencera encore une fois comme ça sans raison.
Une véritable déclaration d'amour à la résilience avec un peu de nostalgie. C'était Demain du chanteur Alien.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et toujours avec Martine Cano de la Fédération française de cyclotourisme et Nicolas Denose du collectif Bicyclette Bretagne. On est à vélo ce matin dans cette émission et notamment à la campagne avec vos appels au 04 72 38 20 23. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Vous êtes...
j'habite Nancy.
Oui.
Avec mon épouse Béatrice et on voulait vous témoigner du grand bonheur qu'on a eu pendant 20 ans de faire du cyclotourisme avec nos enfants. Voilà.
Alors, allez-y.
Alors, c'était vraiment une chance d'avoir un club extrêmement bien organisé. Et on a fait pratiquement pendant ces 20 ans tous les parcs nationaux de France avec nos enfants, donc à partir de l'âge de 5 ans, puisque tout était organisé pour qu'ils puissent se rouler en même temps que nous, évidemment avec des sécurités particulières. Hein. Nos quatre enfants ont appris la sécurité, la cartographie, l'entretien de matériel,
la
découverte de la France, nous, on épouse, la solidarité et l'autonomie. Donc, et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, maintenant, ils continuent tous à vélo, mais ils ont pour certains plus de 45 ans. Hein, et c'est vraiment une formation qui a été vraiment très utile pour tout le monde.
Ouais. Voilà. Comment elle s'appelle votre épouse, Bernard, qu'on entend derrière?
Oui, le club s'appelait le Cosvillé, mais malheureusement, ce club a disparu. Voilà. Par contre, on est tous restés ensemble. Évidemment, à partir d'un certain âge, on a dû diminuer nos exigences sportives.
Oui.
Et on s'appelle les cyclosophes et les vélos papoteuses.
Eh bien, écoutez, c'est parfait. Merci voilà. Beaucoup, Bernard.
Un grand merci et transmettez aussi cette joie à la fédération. Hein.
Eh bien, c'est gentil. Merci, Bernard, pour votre appel. Ce matin, dont je pense, donc j'agis, Martine Cano, c'était pour vous, ça, ce témoignage.
Oui, ça fait bien plaisir parce que je connais pas mal de cyclotouristes de la région de Nancy. Et de voir que ce que l'on sème finit par donner des résultats, c'est toujours très réconfortant.
C'est quoi le cyclotourisme en fait, si on entre un peu plus dans le détail de ce loisir?
C'est un peu une philosophie de vie, hein. C'est une façon de se déplacer, de voyager en étant un citoyen pleinement intégré. Et qui fait attention à des préoccupations qui sont devenues aujourd'hui très actuelles, mais qui sont anciennes. Notre entre guillemets, père fondateur, Paul de Vivy, prônait déjà ça il y a longtemps, c'est-à-dire une hygiène de vie, aussi bien alimentaire que dans les déplacements, et puis l'amitié, le partage, et ça c'est très important aujourd'hui, c'est dans la vie sociale, être avec les uns, être avec les autres. Tout à l'heure je vous entendais parler aussi de l'accès dans les villes. On peut dire que, outre la signalétique, un point important qui refroidit quelquefois les utilisateurs, c'est quand je vais arriver en ville, qu'est-ce que je vais faire de mon vélo? Il faut aussi penser à pouvoir stationner le vélo, le garer en sécurité. C'est pas toujours simple, surtout quand il y a de plus en plus de vélos. Ça, c'est ce qui est bien d'un certain côté. Mais après, ça peut poser des problèmes de stationnement. Il faut de l'espace et surtout de l'espace sécurisé, parce que si vous allez faire quelques courses ou rendre visite à des amis, vous revenez, le vélo a disparu ou il lui manque une roue, et bien évidemment vous recommencerez pas et ça va vous dégoûter à tout jamais. Donc ça c'est aussi quelque chose qui commence à apparaître, mais pas forcément encore très développé, à part dans nos très grandes agglomérations. Et dans des agglomérations moyennes, on commence à trouver aussi des garages à vélo. Quelquefois uniquement sur abonnement, ce qui est bien pour les résidents, ce qui est plus embêtant pour les gens qui sont en transit, parce qu'ils vont pas prendre un abonnement alors qu'ils ne font que passer là un jour ou deux, quoi.
Alors ça rejoint le témoignage de Carole qu'on a reçu par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Elle nous dit, à la campagne, 30 km ou 40 km par l'autoroute, à vélo pour aller travailler, c'est au mieux 2h30 aller et 2h30 retour. À la campagne, je pense que l'on peut inverser le raisonnement, nous dit-elle. Pourquoi ne pas créer un site de proposition d'échange de travail? Par exemple, je vis à Chambéry et je travaille en comptabilité à Albertville. Il est possible qu'une personne habite à Albertville et travaille en comptabilité à Chambéry. Ça peut être une idée à étudier pour pouvoir s'y rendre à vélo plus facilement. Ce qu'on entend, je trouve ça intéressant, Nicolas Denos, à travers ce témoignage, c'est l'intermodalité, c'est-à-dire essayer de à la fois, évidemment, privilégier le vélo. Parfois, c'est très compliqué parce que ça peut prendre énormément de temps. Mais c'est d'essayer de concilier un peu les deux. Peut-être un bus, un transport en commun, la voiture, hein, dans le pire des cas, on va dire. Et puis le vélo, Nicolas.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, à la campagne, les distances sont en moyenne plus grandes. Néanmoins, ce qu'on voit dans les chiffres, c'est que la moitié des trajets, y compris en monde rural, font moins de 5 km. Donc on a une partie des trajets qu'on peut faire en vélo. J'ai dit, bon, on ne va pas vous demander de faire 30 km à vélo. Ce serait un peu long, à part effectivement pour le plaisir d'une après-midi de pédalage le week-end. Et effectivement, pour les plus grandes distances, on a les transports en commun. Par contre, 70% des gens vivent à moins de 20 minutes d'une gare en vélo. Donc c'est effectivement quelque chose que la région de Bretagne a cherché à développer depuis plusieurs années, d'offrir la possibilité de pouvoir rejoindre la gare à vélo. Donc ça suppose que la gare soit équipée, qu'on puisse accéder à la gare et qu'on puisse aussi, évidemment, comme le souligner son vélo à la gare, via soit des arceaux en libre service, soit des stationnements sécurisés, accessibles par badge. Donc ça, c'est un système qui commence à fonctionner très bien, notamment dans le Morbihan, où on a des axes routiers qui sont un petit peu bouchonnés pour l'accès aux villes, et où un certain nombre de personnes qui maintenant viennent à vélo à la gare et prennent le train pour aller au travail. Et ces personnes peuvent aussi habiter dans des hameaux à 5 km de la gare. J'en connais quelques-uns.
On a un auditeur en ligne, Arokedas, bonjour.
Oui, oui.
Je ne connaissais pas ce prénom, il va falloir nous dire un peu d'où il vient.
L'Inde,
Arokedas, oui. Hein, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui.
Eh bien écoutez, on est ravis de vous entendre, Arokedas, et on vous écoute.
Voilà, c'est pas pour parler de moi, c'est pour parler de mon fils qui a fait un voyage à Paris, à Pondichéry. Pondichéry, c'est le comptoir français de l'Inde.
Oui.
Et c'était le comptoir français de l'Inde. Allô?
Oui, on vous écoute.
Voilà, il a fait en vélo 6000 km. Il a traversé toute l'Europe jusqu'à Iran. De Iran, il pouvait pas avoir le visa pour aller Ouzbékistan et tout ça. Alors donc, de l'Iran, il a pris l'avion, il a descendu à Bombay, et puis il a traversé Bombay, tout l'Inde, jusqu'au sud, Pondichéry. Voilà, Pondichéry, c'est ancien comptoir de français de l'Inde.
Jusqu'en 54.
Voilà, c'est ça, oui. Voilà, je voulais parler de ça.
Ben
voilà.
Non, écoutez, c'est très intéressant et merci beaucoup à Roquelas d'avoir participé et de nous avoir parlé de votre fils qui s'appelle Lionel, hein, je crois, et qui a pu faire ce tour, presque un tour du monde, mais en tout cas qui a fait Paris-Pondichéry, c'est assez impressionnant. Martine Cano, alors c'est plus que du cyclotourisme là pour le coup, mais est-ce que vous travaillez également, enfin, vous travaillez, c'est une grande question, mais est-ce que des personnes étrangères vous contactent également quand elles souhaitent faire peut-être un petit détour par la France?
Cela arrive, et puis nous avons aussi parmi nos adhérents des voyageurs au long cours. D'ailleurs, on encourage les jeunes, les moins de 30 ans, jeunes adultes qui souhaitent faire un grand voyage de plus de 6 mois avec une petite bourse qui leur donne un coup de pouce. Alors selon les années, bon, évidemment, on sélectionne les projets parce qu'on ne les retient pas tous. Et on a des cyclo-voyageurs comme ça qui sont allés à l'autre bout du monde. Actuellement, nous suivons un jeune homme qui est en train de remonter toutes les Amériques. Il est parti de Patagonie, il arrive en Amérique centrale et il espère aller jusqu'en Alaska. C'est un projet long, un projet de toute une vie. Ceux qui font ce genre de voyage ou vers l'Asie, bon, quand ils reviennent, ils sont généralement transformés. On ne revient pas indemne de ce genre de périple. Nous, en tant que fédération, non seulement on encourage le voyage, mais on a monté, il y a de temps en temps, tous les 4-5 ans, des expéditions de ce genre où on a emmené, par exemple, 100 cyclotouristes de Paris à Pékin pendant 4 mois. Bon, ils étaient accompagnés pour des raisons de logistique et de sécurité, parce qu'effectivement, comme l'a signalé l'intervenant précédent, il y a toutes ces questions de visa et oui. Aujourd'hui, c'est, je crois, encore plus compliqué. C'est pas tout à fait le moment d'aller traverser certaines régions. Mais le voyage à vélo, c'est une autre vie, c'est une liberté extrême. D'ailleurs, on se rend compte que dans les pays, dans certains pays qui sont, alors, entre guillemets, en voie de développement, mais disons qu'ils ont peut-être pas les mêmes habitudes de vie, le vélo, c'est aussi un élément d'émancipation. Ça permet aux enfants, notamment aux femmes, d'aller à l'école, de s'instruire, d'aller au marché sans être dépendante d'un père, d'un mari. C'est quand même plus facile d'aller à l'école à vélo que de faire 7-8 kilomètres à pied dans certains pays. Nous, on a des petits écoliers qui quelquefois pleurent pour faire 2 kilomètres à vélo ou 1 kilomètre à pied, mais là-bas, il y a dans certains pays, les enfants, ils ont envie d'apprendre. Les femmes ont envie aussi d'avoir une certaine autonomie et le vélo leur permet ce genre de choses. Ouais. Ça, c'est très important.
Dans votre collectif, Nicolas Denos, hein, je rappelle le nom, le collectif Bicyclette Bretagne, vous l'avez dit, vous essayez à la fois d'interpeller les collectivités territoriales pour développer ces modes de déplacement, donc surtout le vélo, et puis aussi l'intermodalité, vous l'avez dit tout à l'heure. Également, un objectif, c'est de sensibiliser les plus jeunes à l'utilisation du vélo. Qu'est-ce que vous faites pour les collégiens et les lycéens? Est-ce que vous essayez de mettre en place des actions ou en tout cas d'imaginer quelque chose qui pourrait leur rendre service?
Alors ça fait partie de nos projets qu'on n'a pas encore mis en œuvre. Effectivement, par rapport aux collégiens en particulier, le collège, c'est l'âge où on va vouloir développer son autonomie. On sait que certaines associations ailleurs en France organisent des opérations. Ils demandent, par exemple, pendant toute une semaine, à tous les collégiens de venir en vélo. Ils les accueillent au collège, ils vont les applaudir pour les encourager à venir en vélo. Ça permet aussi, parfois aussi, de rassurer les parents sur le fait que c'est possible de laisser son enfant aller au vélo au collège, de soulever peut-être aussi des problématiques auprès des élus de certaines zones, enfin, de certaines rues qui seraient peut-être un peu plus dangereuses. Donc ça fait partie des opérations qui peuvent être intéressantes à mener à cet âge-là. Également certaines de nos associations qui font de ce qu'on appelle le savoir rouler à vélo, qui là avant le collège, qui sont des cours pour apprendre à faire du vélo, pas simplement à faire du vélo, mais à le faire au milieu de la circulation. Et c'est aussi des choses qui sont importantes pour donner confiance dans le fait de faire du vélo. On sait qu'un certain nombre aussi de changements d'habitude peuvent venir des enfants. Qui après vont pouvoir en parler à leurs parents et vouloir demander à leurs parents aussi, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas aussi faire du vélo ensemble.
Voilà, ça c'est les bonnes initiatives. J'espère qu'ils pourront vraiment voir le jour. Nicolas Denos, on a le message d'une auditrice qui était plutôt en colère, je crois, au standard, et qui nous dit les cyclistes ne respectent pas le code de la route. Il y a de l'incivisme en ville, notamment, je précise, je me fais frôler ou insulter, je ne les supporte plus. Bon, alors moi, je trouve ça intéressant quand même de lire ce témoignage, sans faire de généralité, évidemment, Martine Cano. C'est vrai que quand on voit le comportement de certains cyclistes, et je parle pour la ville, pas forcément pour les zones rurales, c'est à se poser des questions, savoir si cette liberté totale n'est pas un danger parfois, quand il y a des bus, quand il y a des autos et bien sûr des vélos. Martine.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, nous essayons de marteler auprès de nos adhérents le fait qu'ils doivent respecter le code de la route. Alors, on sait que certains ne le font pas toujours. Néanmoins, on a quand même énormément progressé dans la mesure où, quand on regarde les taux d'accidentologie, il y a toujours trop d'accidents, on est d'accord. Mais si on y regarde de plus près, au niveau de nos adhérents, chez nos adhérents, il y a moins d'accidents que les années précédentes. Par contre, globalement, sur le territoire français, il y a davantage d'accidents. Beaucoup, à cause de ce que j'appellerais, moi, les néo-cyclistes, sont des gens qui se sont mis au vélo à l'époque du confinement ou juste après, qui n'ont pas forcément acquis les bons réflexes. Et c'est surtout sensible dans les grandes villes. Là, je rentre, il y a 48 heures à peine, d'un petit périple. Là, je suis allé du Morbihan à Paris à vélo avec des amis. Certaines étaient effrayées de voir le comportement à Paris. Ça n'a rien à voir avec la province où, effectivement, là, c'est un petit peu la jungle, entre guillemets, ce qui est surprenant. Mais bon, on ne peut pas prôner ou demander à être respecté à vélo si soi-même on ne fait pas l'effort d'être respectable et de montrer l'exemple. Je crois que c'est vraiment important. Si on veut être respecté, il faut aussi que, si les cyclistes veulent être respectés, il faut aussi qu'ils se conduisent de façon correcte. Et tous les cyclistes ne sont pas des sauvages et tous les automobilistes non plus. Il faut trouver le juste milieu. Mais c'est vrai que les grandes agglomérations et notamment l'agglomération parisienne, c'est pour les provinciaux, c'est un petit peu la jungle quand même. Ça devient difficile. Tout à l'heure, on parlait du garage à vélo, des signalétiques, etc. Dans certains pays nordiques, notamment aux Pays-Bas, quelquefois, les gens, ils ont deux vélos. Ils ont un vélo qui va de chez eux à la gare. Ils prennent le train. Et quand ils arrivent à la ville de destination, ils ont un autre vélo qui les attend dans un garage sécurisé et qu'ils prennent pour aller de la gare à leur lieu de travail. Et ils font l'inverse le soir. C'est évidemment, nous, on n'a pas encore cette culture-là. C'est un peu extrême aussi d'avoir. C'est peut-être un peu extrême aussi d'avoir deux véhicules, deux vélos. Ce sont souvent aussi des vélos. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des vélos utilitaires et pas des vélos qu'on prendrait pour voyager, c'est le vélo pour aller au travail, systématiquement.
On arrive à la fin de cette émission, ça passe très très vite. Nicolas Denos, quel conseil peut-on transmettre ce matin à toutes celles et ceux qui habitent plutôt à la campagne ou en zone rurale, qui ont un vélo et qui hésitent quand même à l'utiliser quotidiennement. Alors que ce soit pour aller travailler ou même voilà, en tant que retraité, pour aller faire des courses ou voir des proches. Qu'est-ce qu'on peut leur transmettre ce matin comme conseil ?
Alors déjà comme message, même si ça a déjà été dit, j'insisterai sur la dimension plaisir et bien-être. C'est que vraiment ça fait du bien, ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au corps. Donc c'est pour moi l'élément de motivation sans doute principal pour le faire. Et après, dans pour ce qui est concret, c'est effectivement essayer d'abord de repérer la route la plus sécurisée, d'être toujours bien visible. Vous avez des gilets jaunes que vous pouvez porter même, que je conseille de porter même en journée pour être visible de beaucoup plus loin. On a parlé également tout à l'heure en début d'interview du phénomène des dépassements. Vous pouvez accrocher sur votre vélo des petits écarteurs de danger qui marchent quand même pas mal, qui font que les voitures vous dépassent un peu plus loin. Il faut également penser à l'éclairage. Bon, si vous êtes bien préparé en termes de sécurité, ça va vous aider aussi, ça va vous aider à vous rassurer. Il faut quand même aussi penser, même si effectivement il y a plus de danger sur les routes en monde rural, que les bénéfices de la pratique du vélo sont 20 fois supérieurs à ces risques. Ce qu'on sait qu'en termes de réduction du risque de mortalité, ça a quand même un gros impact. Il vaut mieux prendre son vélo que la voiture pour des petites distances pour rester actif.
Et vous, Martine Cano, quel conseil on peut transmettre ? Vous pouvez transmettre plutôt.
Oser prendre le vélo, ça c'est sûr.
Ouais, oser.
Ça, c'est sûr. Oser prendre le vélo, vous en sentirez beaucoup mieux. On l'a dit tout à l'heure, hein, dans le corps et dans la tête, c'est évident. On a parlé aussi des enfants au collège, mais aujourd'hui, on entre au-delà au-delà de l'école primaire, on peut aller dans les collèges, sensibiliser les enfants, c'est très bien, et faut pas toujours opposer, je crois, et les automobilistes et les autres, on est tantôt l'un, tantôt l'autre, il faut se respecter mutuellement, et j'aime beaucoup une phrase, un humoriste bien connu qui était Jacques Faizan, qui était un grand cyclotouriste, un grand cycliste, aussi bien en ville que dans la campagne, et qui disait le cycliste n'est pas un automobiliste déchu, c'est un piéton miraculé. C'est une phrase que j'aime bien parce qu'il va loin et il a une ouverture qui change la vie. Il a dit ça dans les années 70, à l'époque où quand on arrivait quelque part dans un restaurant ou un hôtel à vélo, on était quand même assez mal considéré. On disait c'est le pauvre type qui arrive parce qu'il n'a pas les moyens d'avoir une voiture. Mmh. Aujourd'hui, le regard a changé. On est plutôt courtisé, même si dans la vie quotidienne, on s'est rendu compte que d'un côté, il y a davantage de gens qui font du vélo, ça s'est bien développé, et en même temps, il est né à une sorte de sentiment anti-cycliste, parce que certains ont tendance à dire, ouais, les cyclistes, ils commencent à nous embêter, il y en a partout, et nous, on l'a vraiment ressenti il y a 2-3 ans. Mmh. Ça, c'est un peu paradoxal. On a les deux extrêmes, si vous voulez.
Voilà. Et en tout cas, ce que vous dites bien ce matin, Martine Cano et Nicolas Denos, c'est oser. Voilà, oser, n'ayez pas peur. Il est 10h54, on arrive à la fin de cette émission. On va tout de suite accueillir notre chroniqueur, comme tous les mardis. Et alors que se déroulera à Marseille les 18 et 19 juin prochains le campus des territoires zéro exclusion énergétique, on va revenir sur cette initiative avec Julien Deséchaux, directeur du Média Sans Transition. Bonjour Julien.
Bonjour Melchior, et il sera effectivement possible de venir à vélo justement.
Ah bah c'est parfait.
Du 18 et 19 juin prochain.
Est-ce que vous pourriez nous rappeler qui est concerné par la précarité énergétique ?
Elle concerne 12 millions de personnes en France, c'est pas rien. Il s'agit d'un fléau social et économique majeur. Conséquences multiples, dégradation de la santé, mal-être des habitants, conditions de vie indignes, factures énergétiques alourdies, émissions de gaz à effet de serre aggravées. Bref, parmi ces 12 millions de personnes, 2 sont en exclusion énergétique. Elles n'ont pas les moyens suffisants de chauffer convenablement leur logement parce qu'il est devenu une véritable passoire thermique. Et ce, l'hiver, mais aussi l'été, avec des conséquences associées. La moitié de ces personnes vivent dans dans 500 000 maisons individuelles dont elles sont propriétaires.
Et en quoi consiste cette initiative Territoire Zéro Exclusion Énergétique portée par le collectif du même nom, d'ailleurs qui a inspiré les territoires zéro chômeur d'ATD Quart Monde?
Le programme Territoire Zéro Exclusion Énergétique a pour ambition d'éradiquer la précarité énergétique sur l'ensemble du territoire. À cet effet, il est déployé selon deux approches, une plus ciblée reposant sur les 14 territoires zéro exclusion énergétique sélectionnés. Et dans ce cadre, ce sont pas moins de 2000 familles en situation d'exclusion énergétique qui sont accompagnées, qui seront accompagnées d'ici 2026. Et une approche plus diffuse dont l'ambition est de déployer la méthodologie sur l'ensemble du territoire. Dans ce cadre, ce sont 1000 familles supplémentaires accompagné, soit 3000 au total. Un programme qui a été conçu, Melchior, par le collectif Stop Exclusion Énergétique. L'objectif, densifier la lutte contre la grande précarité énergétique par une approche territoriale, apportant mobilisation ici, compétences là, outils et financements partout également. Ainsi sont réalisés des accompagnements renforcés de personnes en grande précarité pour leurs travaux de rénovation. Ce sont pas moins de 15 jours qui sont financés par foyer, mais aussi des formations de professionnels qui réaliseront ces accompagnements renforcés, ou encore des sessions de sensibilisation des artisans, des bénévoles du territoire à la rénovation globale.
En un mot, quels territoires sont engagés dans la démarche et en quoi consiste l'expérimentation ?
Citons notamment Paris, Marseille, Strasbourg, Le Havre, Seine Métropole, Valence, Romans, Agglo, Carcassonne, Agglo, Saint-Priest et le département de la Mayenne, ainsi que le nord-ouest de Compiègne parmi 14 territoires pionniers, Melchior. Sur ce dernier territoire, du côté de Compiègne, une cinquantaine de familles, par exemple, en grande précarité, ont pu être identifiées, ainsi que 140 familles à Saint-Priest, en lien avec les propriétaires. Des travaux d'amélioration de l'habitat ont pu être entrepris pour les sortir de ces grandes difficultés, avec, par exemple, des changements de système du chauffage, de l'isolation, de la ventilation, ou encore des matériaux adaptés qui ont pu être proposés par des professionnels. Objectif, expérimenter la massification de la rénovation énergétique pour ces familles modestes. La bonne nouvelle, c'est que l'appel à candidature à d'autres territoires qui souhaiteraient rejoindre la dynamique est encore en cours.
Merci beaucoup Julien des Échos, c'était important d'en parler. On peut retrouver plus d'informations sur votre site sans-transition-magazine.info et merci également Martine Cano et Nicolas Denos pour votre participation. C'était un vrai plaisir de vous entendre, Nicolas Denos du collectif Bicyclette Bretagne, à retrouver sur le site collectif-bicyclette.bzh évidemment. Et merci Martine Cano de la Fédération Française de Cyclotourisme, à retrouver sur le site ffvélo.fr. Merci à toutes et tous pour vos très 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 nombreux appels ce matin sur le vélo, ça cartonne toujours hein, mais on en refera, vous inquiétez pas. Merci à Antoine et Catherine et Pierre à la réalisation. On va se retrouver demain avec alors un tout autre sujet hein. On va parler du conflit qui déchire Israël et la Palestine qui semble sans fin, et pourtant des solutions de paix émergent. Comment faire pour que les populations puissent vivre sur ce territoire? Faut-il un ou deux États et avec quelles conséquences? On en parlera demain avec nos invités et avec d'ores et déjà vos témoignages. N'hésitez pas à réagir par mail à l'adresse direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. Bonne journée.